dialogue
sigi kafoba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue. Nous sommes lundi 17 novembre 2014. L'actualité reste Ebola. Cette émission pose la problématique où en est-on après l'apparition de l'épidémie à virus Ebola à Bamako. L'État décide de renforcer le dispositif sanitaire pour freiner ce fléau. Une grande mobilisation qui s'est traduite par la visite des autorités dans les centres d'accueil et la visite du président à Kouré-Malé. Kouré-Malé où sera installé prochainement un site d'isolement. Nous en parlons avec Boubacar Traoré de l'Ordre des médecins du Mali, Dr Al-Mustapha Maïga, virologue, Souleymane Delo du groupe Pivot Santé et Mahamadou Djimi, conseiller municipal à la mairie de Kaye, au téléphone depuis Kaye. Donc, moi je suis Sira Bachili au micro, Nouhoum Diré est à la technique. Bienvenue à vous, chers invités. Selon l'OMS, 268 personnes ont été en contact direct ou indirect avec les cas d'Ebola et ont été placées sous surveillance à travers le Mali. Nous allons donc essayer de vérifier avec M. Djimé qui est avec nous en ligne depuis Kaye. M. Djimé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, comment et où se passe la surveillance à Kaye là-bas?
Bon, mais comme vous l'avez bien dit, la surveillance se passe très bien chez nous. Et au début de ce problème d'Ebola, effectivement, il y avait une panique générale. Mais je crois que sous la houlette de notre gouverneur, alors qui a su vraiment mettre une commission en bonne et due forme, donc les Kayésiens ont pris à bras le corps ce problème d'Ebola. Au jour d'aujourd'hui, je crois que la population kayésienne a compris. Et comme vous l'avez si bien dit, donc la surveillance quand même se passe très bien. Bon, c'est vrai, comme tout ce qui a les dispositions qui ont été mises en place, c'est par rapport surtout aux écoles. Les premières heures, les écoles étaient fermées. Et les sorties de Kaye. Vous savez quand même que Kaye, nous faisons frontière avec le Sénégal, nous faisons frontière avec la Guinée et la Mauritanie. Mmh. Et du coup, la Mauritanie nous a formé la frontière, mais les Sénégalais n'ont pas formé, c'est resté ouvert. Donc, les dispositions ont été prises vers Diboli. Et ils ont voulu mettre le camp d'internement vers Diboli, mais ça n'a pas lieu. Effectivement, ils l'ont mis vers Kaye, à La Hina.
D'accord.
Donc, du côté à La Hina, c'est vers Samé, à Kaye.
Présentement, est-ce que vous avez connaissance du nombre de personnes qui sont en quarantaine à Kaye là-bas?
Bon, le nombre de personnes qui sont en quarantaine, il n'y en a plus.
Mm-hmm. Il y en a
ils ont
plus?
Été libérés, ils ont été libérés hier.
Hier. Ça, hier, c'était la deuxième vague, hein?
Oui, c'est la deuxième vague.
Mmh. D'accord.
C'est ceux qui ont été principalement concernés, la famille même du défunt, père à son âme.
Mmh.
Et ils ont été libérés hier et puis nous avons reçu, comme il se doit, dans la chaleur kayésienne.
D'accord. Alors, vous restez avec nous, le temps de faire réagir les autres. Alors, docteur okay. Al-Mustapha Maïga, vous qui êtes virologue, quelles sont les conditions de la quarantaine?
Bonjour et merci à notre conseiller depuis Kaye. Les conditions de la quarantaine, elles sont. Ça dépend du type de quarantaine qu'on va faire. Mais la plupart du temps, concernant Ebola dont on parle actuellement, c'est aujourd'hui des gens qui sont mis en isolement. Et ces gens, on évite à ce qu'ils aient contact avec les autres membres de la population. Et seulement des personnes habilitées, des personnes qui vont se protéger, seulement ce sont ces personnes qui vont accéder à eux et ils seront surveillés régulièrement. Donc il y a des conditions de quarantaine qui sont très strictes, il y en a qui sont modérées et il y en a d'autres qui sont des suivis mais qui ne sont pas des gens qui sont en quarantaine en réalité. Et c'est ça qui fait l'amalgame. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout en quarantaine mais qui sont suivies régulièrement et on fait des prises de température régulièrement au moins deux fois par jour pour être sûr qu'ils ne développent pas des symptômes.
Alors est-ce qu'il y a une différence entre surveillance, quarantaine et isolement?
Absolument, c'est différent. Quand on isole quelqu'un, la personne est isolée et seulement des personnes habilitées, protégées, qui ont toutes les combinaisons strictes vont avoir accès à cette
personne.
Ça veut
dire que la personne vit seule, carrément.
Absolument, tu vis seule. Tu es vraiment dans une salle, tu es isolé, tu es là-bas. C'est comme le mot, il l'indique, vraiment, on te met à l'écart pour que tu ne puisses pas contaminer d'autres personnes. Maintenant, la quarantaine, elle est moins que l'isolement, parce que la quarantaine, on te met dans une salle aussi. Tu n'es pas aussi stressé que comme dans le cas de l'isolement. L'isolement, c'est les gens qui sont très malades, alors que la quarantaine, c'est des gens qu'on suspecte et qu'on veut surveiller. Et les conditions des gens qui vont venir te voir aussi, en fonction de ce que tu vas développer. Si tu ne développes pas des signes, on va pas venir se réarmer comme si c'est quelqu'un qui portent les signes en réalité.
D'accord.
Et maintenant, la surveillance, c'est qu'il y a des gens qui sont surveillés et qui peuvent vaquer à leurs occupations. On leur donne des conseils et on leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et on les suit régulièrement pour leur donner des soins particuliers.
Alors, voilà. Souleymane Dolo, vous êtes directeur du groupe Pivot Santé. Vous êtes de la société civile. On voit que dans ces cas, pour convaincre la société civile à accepter la quarantaine, c'est difficile. Selon vous, comment faire accepter la quarantaine? Rien que son nom, ça panique. Comment faire accepter cela?
Ok, donc je vais commencer par remercier Tamani pour l'occasion qu'il nous a offerte, mais également tous les gens qui sont là à l'écoute. D'abord, je voudrais dire que Ebola est venu un peu changer toutes nos habitudes. Par rapport à votre question spécifiquement, la question elle est un peu complexe, mais pour cela, il faudrait d'abord une information et une bonne information. Et également, il faudrait un changement de comportement. Donc, ça nous amène à dire que Ebola, ce n'est pas seulement médical, mais c'est également communautaire. Donc, mais nous avons remarqué, nos sociétés civiles, que l'accent est mis sur le côté médical, c'est vrai, c'est important, et c'est même très important. Mais le niveau communautaire, le renforcement de capacités communautaires aussi ne doit pas être oublié. Donc, pour que les gens puissent accepter la quarantaine ou toutes les informations qui passent, il faudrait quand même une vraie implication de la société civile, à travers ces leaders, les leaders communautaires, les leaders religieux, qui sont quand même les porteurs de messages dans nos différentes communautés et qui sont aussi écoutés. Parce que je vous donne un exemple très simple. On a beau dire aux gens, ne vous donnez pas la main, mais dans les mosquées, après les prières, les gens, tout le monde court pour aller saluer l'imam et tout le reste. Donc je voudrais dire que tant qu'on ne prend pas en charge ces aspects, je pense qu'on ne peut pas se limiter seulement au côté médical.
D'accord.
Donc il faudra voir ces différents aspects pour qu'on puisse vraiment avoir gain de cause.
Mais alors vous qui êtes du forum de la société civile, est-ce que vous êtes déjà à pied d'œuvre pour inciter les gens ou bien convaincre les gens à ce qu'ils soient en quarantaine en cas de besoin?
Bon, pas seulement en quarantaine, mais nous, depuis qu'il y a eu les premiers cas d'Ebola en Guinée, qui ont été confirmés en Guinée, la société civile s'est organisée. Et on a mis en place d'abord une alliance de la société civile qui est composée par des fêtières. Parmi ces fêtières, il y a la FENASCOM, qui est la fêtière de toutes les associations de santé communautaire. Il y a également la FEMANT, qui est la fêtière des tradithérapeutes, parce que vous saviez que le premier recours des malades, l'un des premiers recours, c'est les tradithérapeutes. Donc, c'est des cibles qui sont vraiment exposées. Et en plus de cela, il y a le RECOTRAD que vous connaissez, qui est
les communicateurs traditionnels.
Et également, il y a le groupe Pivot avec toutes les ONG qui le composent. Et également le FONGIM, qui est la coordination des ONG internationales.
D'accord.
Donc, très rapidement, nous avons fait une note conceptuelle que nous avons partagée avec certains ministères et avec les partenaires. Nous les avons démarchés également pour pouvoir accompagner la société civile dans ses actions.
D'accord. Monsieur Boubacar Traoré, vous êtes secrétaire général de l'Ordre des médecins du Mali. Est-ce que à ce jour, tous les contacts ont été identifiés?
Je profite de l'occasion pour remercier le studio Tamani et puis tous les auditeurs au niveau des différentes radios. je vous rectifie, hein, je suis le secrétaire général adjoint,
d'accord,
de l'Ordre des médecins du
Merci
Mali.
Merci pour la précision.
Voilà. Mm-hmm. Donc, à ce jour, toutes les personnes contact ont été retrouvées. Mm-hmm. Et comme le docteur l'a si bien dit, ce qui devait être mis au niveau du site d'isolement, mm-hmm. ces gens ont été. Ceux qui sont suivis régulièrement aussi le sont au niveau du site de Sénam. Mm-hmm. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les gens peuvent être rassurés. Et à ce jour, toutes les personnes de contact ont été retrouvées.
Parce qu'ils sont nombreux, ces suspects. On parle des gens qui ont participé à l'inhumation de l'imam guinéen qui est décédé ici. Mm-hmm. On parle des gens qui sont entrés en contact en famille, qui mm-hmm. sont décédés après. Il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui que toutes ces personnes ont été identifiées?
Toutes ces personnes ont été identifiées. Parce que c'est un travail qui n'est pas facile à faire. Ça demande beaucoup, beaucoup d'implication à tous les niveaux. Mm-hmm. Mais quand même, avec le concours des uns et des autres, on a pu identifier toutes les personnes.
L'Ordre des médecins a été associé?
Oui, l'Ordre des médecins... Bon, pour un départ, l'Ordre des médecins n'était pas associé. Mais comme on a des collègues médecins, mm-hmm. donc à travers ces gens aussi, on a eu beaucoup d'informations. Mm-hmm. On a tenu même deux réunions au niveau du siège des ordres professionnels de la santé par rapport au cas. Mm-hmm. Et une correspondance aussi a été adressée à qui des droits mm-hmm. par rapport aux dispositions idoines qui doivent être prises et pour contenir et puis limiter les cas de fièvre hémorragique à virus Ebola au niveau du Mali.
Il a fallu combien de temps pour répertorier toutes ces personnes suspectes?
Bon,
vous n'avez pas une idée?
J'ai pas
d'accord.
Une idée.
Docteur Maïga Al-Moustapha, vous qui êtes virologue, y a-t-il encore des cas suspects ou avérés au Mali, des cas d'Ebola?
Non, il n'y a pas de cas avérés, mais des cas suspects, oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que le délai du, où l'imam est mort et le délai où il y a eu des cas avérés, tous ces délais-là doivent être comptés et voir quand est-ce que des nouveaux cas vont probablement peut-être apparaître. Donc, vous voyez, nous avons une vieille dame qui est décédée.
C'est
la semaine.
Marge de combien de temps, à peu près?
La période d'incubation du virus, c'est entre 2 et 21 jours.
Ouais.
Donc, 2 et 21 jours, donc il faut compter qu'il y a une moyenne. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a eu des cas avérés. Et ce week-end, il n'y a pas eu de cas, mais il faut s'attendre à avoir des cas dans les jours à venir. Parce que la période d'incubation, elle n'est pas terminée. Donc, prenons le cas de la vieille dame qui est décédée, et puis il y a un autre cas qui est décédé, et tous ces gens-là sont avérés positifs à Ebola. Et donc, et c'est ça qui est inquiétant dans le cas du Mali aujourd'hui.
Oui.
Parce qu'on découvre les gens à la phase tardive de la maladie. Donc, ils
Mais
sont...
qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui explique cela?
Cela s'explique clairement parce que le Mali, pas le Mali, mais aujourd'hui, on a essayé de faire comme ce que le Libéria a fait. On a essayé de cacher, on a essayé d'étouffer. Alors que la maladie, elle ne s'étouffe pas. La maladie, elle ne se cache pas du tout. Et donc, quand tu essaies de la cacher, voilà, c'est... Et ça va sortir, et ça va exploser, et ça va donner des flambées aujourd'hui. Donc, je pense que si on aura le temps, on pourra en parler de l'exemple de ce qui s'est passé au Nigeria. C'est un très bon exemple de ce qui s'est passé. Et ça reflète exactement qu'on peut pouvoir maîtriser aujourd'hui ce qui se passe au Mali parce qu'on connaît l'origine vraiment des cas qui sont avérés.
D'accord. Mamadou Djimé, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Kaye. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, madame.
Est-ce qu'il y a des cas suspects à Kaye là-bas?
Bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas suspects. Parce qu'effectivement, au début, comme vous l'avez si bien dit, les gens étaient sous quarantaine, mais on les a laissés progressivement. Les derniers qui étaient ces cas suspects, ils sont sortis hier matin. Donc, ils ont été accompagnés, effectivement, les notables du quartier, le chef de quartier et les responsables administratifs les ont accompagnés. Bon, les ont accompagnés pour dire aux gens que réellement, ces gens-là ne sont plus des suspects. Donc, ils ne présentent aucun signe. Donc, ils ont été chez eux. Et puis, les imams ont fait des bénédictions. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas suspect à Kaye.
D'accord. Ça veut dire que les Kayesiens sont sereins. Il n'y a pas de panique.
Les Kayesiens sont sereins, mais nous restons quand même veillés parce que Vous comprenez, parce que nous avons une grande frontière avec tous ces pays. Mm-hmm. Donc, nous veillons sur ça. Les dispositions à prendre continuent. On ne baisse pas les bras.
D'accord. On va observer quelques secondes de pause et puis nous revenons après. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Et oui, vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. Vous suivez présentement le Grand Dialogue sur Ebola, situation à Bamako et dans les régions. Nous faisons le point des dispositions prises contre l'épidémie avec l'aide de nos invités, Boubacar Traoré, secrétaire général adjoint de l'Ordre des médecins du Mali, Dr Al-Mustapha Maïga, virologue, Souleymane Dolo, directeur groupe Vivo Santé et Mahamadou Djimé, conseiller municipal à la mairie de Kaï. Deuxième axe de ce débat, nous essaierons de faire le point de la situation au Mali de façon générale. Mais avant, j'aimerais poser cette question à M. Dolo. Vous qui êtes de la société civile, comment est-ce que vous appréciez tous les dispositifs mis en place par les autorités sur le terrain?
Je pense que tout comme les autres, nous apprécions à sa juste valeur les dispositifs mis en place. Mais nous regrettons une situation que nous n'avions pas compris du tout. Parce que par rapport à l'implication de la société civile, nous sommes restés sur notre faim. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le ministère ne nous implique pas. Et pire, le ministère dit même que les activités de la société civile sont interdites. Ça, on n'a pas compris. Parce que de tout le temps que nous travaillons avec le ministère de la Santé, c'est quand même en appui et en synergie que nous travaillons. Que ce soit dans le PRODES, on sait que le PRODES, c'est le public, c'est la société civile, c'est le PTF. Et également, même quand il y a eu la crise au Nord, la société civile a intervenu. Nous, nous avons vacciné à Tombouctou, une campagne de vaccination à Tombouctou pendant la pleine crise, où il y avait les armes qui crépitaient encore. Et également, la FENASCOM a vacciné les enfants à Gao. Et cette fois-ci, nous ne comprenons pas du tout la position du ministère. Et nous avons demandé à rencontrer le ministre, mais jusqu'à période de contrôle, on n'a pas pu. Donc nous cherchons à comprendre. Pour un premier temps, nous ne voulons pas nous opposer à quoi que ce soit. Et nous avons fait la situation à nos grandes fêtières qui sont le Forum de la Société Civile et le Conseil National de la Société Civile pour qu'ils rentrent en contact avec le ministère. Parce que nous pensons que par rapport à Ebola, tous les secteurs ont leur rôle à jouer et nous pensons que nous avons même un grand rôle à jouer. Et ce qui fait que notre absence se traduit par le fait qu'on met seulement l'accent sur les aspects sanitaires et qu'on oublie même les aspects communautaires. Alors que tout ce qui a été dit ici, les contacts, pour les avoir, c'est très important. Parce qu'un contact peut aussi contaminer beaucoup de personnes. Et c'est nous qui sommes au niveau de la communauté. Et c'est nous qui maîtrisons les aspects communautaires. Donc nous ne comprenons pas pourquoi cette position du ministère par rapport à la société civile. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que ce qui a été mis quand même sur place par rapport aux dispositifs sanitaires, je pense que c'est quand même efficace pour le moment. Pour le moment. Mais au niveau des cordons aussi, au niveau de la frontière, si vous regardez, je crois que les dispositifs qui sont là-bas sont surtout les prises de température. Nous pensons que la seule prise de température n'est pas efficace parce que, comme le docteur l'a dit, la période d'incubation, c'est de 2 à 21 jours. Donc, tu peux passer, avoir le virus, mais ne pas faire de fièvre. Donc nous pensons également qu'il faut renforcer ces différents aspects, mais aussi, encore une fois, impliquer la société civile à juste titre. D'accord. Parce que nous pensons que nous ne sommes pas du tout impliqués.
D'accord. Monsieur Boubacar Traoré, de l'Ordre des médecins du Mali, quelle appréciation vous faites des dispositions prises sur le terrain par les autorités en tant que médecin?
Bon, contrairement à ce que Dolo l'a dit, hein, au niveau sur le terrain, il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises, notamment au niveau des structures sanitaires, surtout publiques et communautaires. Donc, des dispositions d'information, de sensibilisation, la dotation des structures en combinaison de protection individuelle, en produits de désinfection. Et la formation aussi des agents sur le terrain. Et au niveau des portes d'entrée aussi, il y a des équipes pour surveiller l'entrée, la sortie des personnes. C'est vrai que c'est des mesures pour limiter, éviter la survenue des cas au niveau du Mali. Mais quand même, c'est ce qu'on a pu déplorer sur le terrain, c'est que c'est des trucs, des matériels qui sont en quantité insuffisante au niveau de beaucoup de structures sanitaires. Et surtout, les structures privées n'en ont pratiquement pas reçu. Bon, les structures privées qui en ont reçu aussi, c'est une ou deux combinaisons par structure. Or, elles font beaucoup, beaucoup de consultations aussi. Donc, quelque part, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Et ça doit être renforcé sur le terrain aussi pour pouvoir limiter encore, comme on dit, renforcer la surveillance épidémiologique sur le terrain.
D'accord.
Pour qu'on on pêche par excès, et ça vaut mieux que de pêcher par défaut.
D'accord.
Donc, tous les cas de malades qui présentent de la fièvre, de la diarrhée ou des vomissements suivis de saignements, quelle que soit l'origine. Donc, c'est des gens qui doivent être notifiés au niveau supérieur et des investigations doivent être faites pour chacun de ces cas et puis prendre des dispositions urgentes.
D'accord. Mahamadou Djimé, en ligne depuis Kaï, quelles sont les dispositions qui ont été prises sur place à Kaï là-bas?
Bon, les dispositions qui ont été prises à Kaï, c'est les premières heures, c'est vrai, c'était la panique. Mais comme je vous l'ai dit, tout autour du gouverneur, il y a une commission. Et donc, le lavage des mains dans toutes les écoles. Les bâches pour se laver les mains dans tous les services administratifs. Bon, au niveau...
Et au niveau des frontières, le dispositif a été renforcé ou pas?
Au niveau des frontières, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il y a des appareils. Nous sommes presque ouverts seulement vers le Sénégal. C'est vers le Sénégal qu'il y a des appareils pour tester, voir les températures, et à l'entrée et au sortir. Bon, mais la Guinée, ça c'est vers Kenyeba et puis vers Kita. Et je crois qu'il y en a aussi là-bas. Vers la Mauritanie, et ils avaient déjà fermé leurs frontières. Donc de ce côté, il n'y a pas eu d'appareil parce que les frontières étaient fermées par terre.
D'accord. Le deuxième axe de ce débat, nous allons essayer de faire le point de la situation à travers tout le Mali. Docteur Maïga, l'épidémie a dépassé Bamako, Kaï, on parle de Kouré Mali maintenant. Ça voudrait dire que des tests ont été effectués à Kouré Mali?
Alors, au jour d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de cas suspects qui sont avérés heureusement négatifs. On en fait beaucoup. On fait beaucoup de cas suspects qui sont négatifs. Des patients viennent de partout. Les patients sont venus de Ségou, de Kouré Mali, de Bamako. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures qui ont été mises en place, ça marche. Peut-être comme le docteur Traoré l'a dit, c'est pas suffisant, mais en tout cas pour l'instant ça marche, et je pense qu'on doit être vigilant, on doit renforcer encore et on doit faire en sorte que les contacts, parce qu'il y a ce que l'on doit savoir aussi, c'est qu'il y a, les contacts, il y a les premiers contacts, il y a les deuxièmes contacts, parce que quelqu'un qui a été rentré en contact avec l'imam, les gens qui ont été rentrés en contact avec les gens infectés par l'imam, qui sont décédés déjà, tous ceux-ci doivent pouvoir être mis en place. Et vraiment, et c'est là que je reviens, mon cousin Dolo, pour dire qu'effectivement, on ne doit pas mettre à l'écart des dispositifs. On doit mettre tout le monde en synergie pour que les gens travaillent. Et on doit sensibiliser et former et informer les gens. On ne doit pas paniquer, parce que le gouvernement pense que souvent... quand on informe les gens, on va paniquer tout le monde. Non, on ne panique pas. Il faut communiquer,
ouais.
Il faut donner l'information, il faut former les gens, il faut les informer, il faut les sensibiliser. Mm-hmm. Parce que s'ils ne sont pas informés, s'ils ne sont pas formés, ils ne savent pas que faire. Il y a des agents de santé, quand quelqu'un vient avec une fièvre, avec un écoulement sanguin du nez et puis saxis, ils fuient. Ils ne peuvent même pas te voir parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont rien devant ces patients-là.
Ouais.
Voilà, c'est juste un exemple.
D'accord. Boubacar Traoré, il y avait vent de panique ces derniers temps à Kidal. Qu'en est-il exactement?
Bon, pour le moment, la situation est rentrée dans l'ordre. Hein,
mm-hmm.
Et bon, je dirais que ce n'est pas seulement à Kidal. Même à Bamako, ici, un moment au niveau du quartier de Sikoroni,
mm-hmm.
un moment, il y a eu un cas suspect
mm-hmm.
de fièvre hémorragique à virus Ebola. Comme le docteur l'a si bien dit, hein, ça se voit un peu partout.
Mm-hmm.
Ça veut dire que la surveillance marche. Parce que il faut pas attendre que le truc soit très franc
mm-hmm.
pour pouvoir notifier. Pour chaque cas de fièvre associé associé au vomissement ou bien à une diarrhée, accompagné de saignement, quelle que soit l'origine, il faut notifier. Il faut notifier et prendre des dispositions.
Ouais.
Donc, chaque fois qu'il y a la population étant suffisamment informée, les gens, chaque fois qu'ils voient ce cas-là, ou bien chaque fois que les gens voient que quelqu'un est venu de la Guinée malade comme ça.
C'est la psychose.
Donc, voilà, c'est la psychose.
Mm-hmm.
Donc, il y a même des gens qui appellent directement le numéro vert.
Il y a toujours des
cas suspects.
Mm-hmm.
Et ça montre que le système marche. En tout cas, selon notre entendement, ça montre que le système marche. Donc, il y a moins de risques qu'un cas avéré passe à côté.
D'accord. Monsieur Doulo de la société civile, vous l'avez dit, hein, vous souhaiterez que la société civile soit impliquée dans cette lutte contre Ebola. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait renforcer le dispositif au niveau de toutes les régions, au lieu que ce soit dans les régions où il y a eu des cas d'Ebola?
Bon, moi, mon analyse est que le cas du Mali est un peu spécifique. Parce que si vous regardez même les cas qui ont été notifiés, les cas avérés, c'est Kay Bamako. Et Bamako, c'est la capitale. Donc, si déjà nous avons enregistré des cas à Bamako, je crois qu'il faut être vigilant dans les autres régions. Je ne veux pas que les gens paniquent,
mm-hmm.
mais au moins, il faut rester vigilant. Et surtout, la conduite à tenir par rapport à ça est simple. C'est des aspects d'hygiène
mm-hmm.
générale. Donc, je pense qu'il faut être vigilant partout, sans tomber dans la panique. Mais également, je pense que tout ce qui se fait par les professionnels, il faut que les gens écoutent les professionnels. Et également qu'au niveau communautaire, on puisse informer et même amener les leaders communautaires à développer des réponses locales.
Mm-hmm.
Parce que comme ça a été dit, il faut une conduite à tenir, que tout le monde connaisse cette conduite à tenir. Et je pense que c'est seulement comme ça que nous pourrons gagner contre Ebola. Et je pense que nous y gagnerons, Inch'Allah.
D'accord.
Je voulais juste ajouter sur ce qu'il a dit, parce que quand on regarde le cas du Nigeria, quand il y a eu ces cas, il y a eu 18 000 personnes qui ont été mises sous surveillance.
Mm-hmm.
Et cela a été mis grâce avec les leaders communautaires, des relais communautaires.
La
et cela a très, très bien marché aujourd'hui.
Mm-hmm.
18 000 personnes qui ont été mises en surveillance, et c'est énorme.
C'est énorme et ça demande beaucoup de moyens.
Ça demande beaucoup de moyens. D'ailleurs, c'est des milliers de dollars par cas qu'ils ont pu. C'est à peu près 17 000 dollars qu'ils ont investis.
Oui. Alors, docteur Maïga, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre d'autres foyers?
Il faut le craindre, pourquoi pas? Il faut le craindre parce que aujourd'hui, je parle du Nigeria parce que c'est un succès aujourd'hui. Le Nigeria, les premiers cas est arrivé en juillet. Et quand c'est arrivé, le premier cas, le diplomate qui était arrivé, et on a fait 10 jours sans cas. Et c'est 10 jours après qu'il y a eu un cas qui est arrivé. Le cas, il a contaminé 2 autres personnes. Et les 2 autres personnes ont contaminé d'autres personnes. Et c'est devenu dans les 4 jours qui suivent, il y a eu plusieurs personnes qui ont été infectées. Donc aujourd'hui, nous sommes à un point critique et on doit être très, très, très vigilant parce que les personnes qui sont décédées d'Ebola viennent de mourir et dans les jours qui arrivent, il faut vraiment être extrêmement prudent pour qu'il n'y ait pas s'il y a des cas, il ne faut pas que ces cas puissent contaminer d'autres personnes. Donc moi, je suis très content parce que au cours du week-end, on a vu un médecin qui présentait des symptômes, qui était en contact d'un de ces malades, qui a présenté de la fièvre, qui est venu de lui-même pour venir se présenter. Il a été testé négatif, donc c'est une très bonne chose.
Ouais. Mamadou Djimé, depuis Kaï, est-ce que la vigilance est de mise à Kaï là-bas?
Vous dites?
Est-ce que la vigilance est de mise à Kaï? On se méfie?
Oui, la vigilance, madame, elle est de mise. Et comme les autres l'ont si bien dit, la vigilance est de mise, l'information, informer les gens, sensibiliser, et la communication passe. Et effectivement, c'est la société civile, les commerçants, les transporteurs. Bon, vraiment, on pense informer toutes les corporations qui sont quand même au niveau de Kaï. Mais la vigilance est de mise. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas de suspect, mais les dispositions restent les mêmes.
La population est engagée elle-même?
Oui.
Je dis la population est engagée elle-même?
La population aujourd'hui est engagée elle-même. C'est ça qui a fait la force de Kaï. Et tout d'un coup, les gens se sont adaptés. Et donc, je crois vraiment, comme si Dieu nous veut, nous allons endiguer ce fléau. Les Kaïens sont sereins, mais on ne baisse pas les bras. La vigilance est de mise.
D'accord, on va aller en pause avec ce message d'espoir.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue sur Ebola et les mesures du Mali, nous faisons le point avec nos invités, Boubacar Traoré, secrétaire général adjoint de l'Ordre des médecins du Mali, Dr Al-Mustapha Maïga, virologue, Souleymane Dolo, directeur au groupe Pivot Santé et Mahamadou Djimé, conseiller municipal à la mairie de Kaï. Dans ce dernier volet, nous abordons le renforcement des mesures annoncées par l'État. Mais avant, j'aimerais faire réagir M. Boubacar Traoré de l'Ordre des médecins. Est-ce que les régions sont au même niveau par rapport aux dispositifs sanitaires, puisqu'on parle de formation des formateurs quelque part?
Oui. Au début de l'épidémie au niveau de la Guinée, c'est pas seulement Bamako qui a été alerté, c'est toutes les régions du Mali qui ont été alertées pour que au niveau de chaque région des dispositions puissent être prises pour qu'il n'y ait pas de cas au niveau du Mali. Donc les agents ont été formés dans toutes les régions et des combinaisons de protection individuelle ont été envoyées dans toutes les régions. Les produits, les médicaments et les produits désinfectants ont été envoyés. C'est vrai que c'est pas en quantité suffisante, mais quand même ça a été envoyé dans toutes les régions. Et comme vous le savez même, au niveau de Sikasso, il y a des caméras aussi pour la surveillance au niveau des portes d'entrée, que ça soit à Sikasso, à Ségou, au niveau de Kaï, à Bamako, à Kourémalé, nous-mêmes au niveau des centres de santé de référence, chaque deux jours, les agents sont envoyés au niveau de l'aéroport international Bamako, c'est nous, pour la surveillance des cas. Donc, je dirais que ce n'est pas seulement au niveau de Bamako, c'est au niveau de toutes les régions du Mali.
Ils sont au même niveau?
Au même niveau.
D'accord. Oui. Alors, Dr Maïga Al-Mustapha, dans ce dernier volet, je l'avais dit, on va parler du renforcement des mesures par l'État. Est-ce qu'on peut dire que ces mesures annoncées sont suffisantes aujourd'hui?
Alors, les mesures, donc je vais juste revenir un peu sur la dernière question que vous avez posée tout de suite par rapport à la mise à niveau de tous les agents. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit au même niveau de formation dans les régions qu'à Bamako. Je ne suis pas du tout sûr. Parce que les infrastructures dont nous disposons à Bamako, les régions n'ont pas ceci. Et même ici à Bamako, il y a une grande disparité en fonction même de la formation des agents. Ici à l'intérieur de Bamako, des structures sanitaires publiques n'ont pas les mêmes compétences pour pouvoir gérer ces cas-là. Donc je pense qu'il y a un effort continu qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir former les gens, continuer à mettre mieux beaucoup de dispositifs pour que les gens puissent, au fur et à mesure, avoir le niveau. Le niveau, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça, c'est un long processus qu'on va acquérir pour le niveau. Maintenant, quand on revient par rapport aux mesures qui sont annoncées, ces mesures, effectivement, j'écoutais tout de suite votre journal que le président Ibeka, il a été au niveau de Corée-Malé et qu'ils ont, ils vont. Mais vous savez, sur le plan international, en réalité, souvent, il y a des choses qu'on ne sait pas faire jusqu'à présent par rapport à Ebola. Aujourd'hui, la période d'incubation est de 22 à 21 jours. Alors, est-ce qu'on va pouvoir, quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui n'a pas de fièvre, qui n'a rien, est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On n'a aucune raison scientifique de garder quelqu'un qui ne présente pas de signes, pour dire parce qu'il a quitté une zone d'endémie, donc on doit le garder. On ne sait pas faire ça, pour l'instant. Et c'est ce qui crée d'ailleurs la polémique aux États-Unis, parce qu'on dit que tous les gens qui reviennent, on va pouvoir les garder. Donc, les mesures, ce qu'on connaît aujourd'hui, les mesures annoncées pourront être efficaces. Mais les mesures ont besoin aujourd'hui d'une meilleure coordination des activités. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place. Mais ces moyens ont besoin d'une coordination au niveau national. Et quand tu vas à l'intérieur, quand tu es acteur du dispositif, tu vois qu'il y a des dysfonctionnements à certains niveaux. Et je pense que les politiques doivent encore mettre de l'accent sur la coordination des activités pour que les moyens puissent être synergiques dans cette lutte-là.
Alors, M. Doulou, qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans ces mesures renforcées annoncées par l'État?
Bon, moi, je pense qu'il faut aller d'abord à l'analyse des cibles les plus exposées. Mais ce qui fait qu'on pourra découvrir des gens qui sont vraiment vulnérables par rapport à ça. J'ai pris le cas des tradithérapeutes. Quand il y a une maladie, le premier recours, c'est les tradithérapeutes. Donc, si les tradithérapeutes eux-mêmes ne sont pas renforcés, je crois que ça pose problème. Et si vous regardez même les premiers, parmi les premiers cas en Guinée, il y avait des tradithérapeutes qui ont eu vraiment à subir le poids de Ebola. Et ici, je crois que les tradithérapeutes ne sont pas encore formés. Nous avons fait du plaidoyer, je crois que c'est pris dans le plan de contingence, mais au jour d'aujourd'hui, les tradithérapeutes ne sont pas formés. Je pense également que par rapport aux agents de santé, il faudrait que les formations soient multipliées. Je ne pense pas qu'au niveau périphérique, au niveau des CESCOM, que tous les agents soient formés. Ça, je ne le pense pas. Et également, je pense qu'il y a un aspect que les gens oublient, c'est la gestion des dépouilles. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux, parce qu'un cadavre peut vraiment contaminer beaucoup de gens. Et pour ça, il faudrait que l'État soit vigilant et que et toutes les dépouilles soient d'abord déposées au niveau des centres de santé et qu'il y ait des certificats d'inhumation en bonne et due forme. Parce que tant que les gens peuvent continuer à enterrer des cadavres en clandestinité, on ne pourra pas maîtriser certains aspects. Donc je pense qu'il faut plutôt aller à l'analyse par rapport aux cibles les plus exposées au lieu de faire un raisonnement d'ensemble. Et ça nous permettra d'affiner vraiment les stratégies d'intervention.
D'accord. Monsieur Boubacar Traoré, quel est votre avis là-dessus, vous qui êtes de l'Ordre des médecins du Mali? Par rapport aux mesures prises, qu'est-ce qu'il faut renforcer dans ces mesures déjà sur place?
Bon, comme les uns et les autres ont dit, par rapport à la formation, il faut multiplier. Et moi, je rassure Monsieur Doulou, à Bamako, quand même, les gens ont été formés. Le CNIEX a formé les gens, la direction nationale a formé les gens et les CCRF ont été formés pour former leurs CCRF.
Mais est-ce que
aussi
c'était valable pour toutes les régions? C'est ça,
c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tantôt. Parce que les directeurs régionaux ont été on les a fait appel à Bamako, ils ont été formés, ils ont reçu des formations. En retour, ils devaient former leurs CCRF. C'est des formations en cascade. Parce qu'on ne peut pas réunir tout le monde au même lieu et puis former tout le monde. Mais ce qui a manqué, c'est la formation des structures privées. C'est surtout la formation des structures privées.
Les structures privées n'étaient pas associées?
Bon, même à Bamako, les structures privées n'étaient pas associées. Donc, on avait associé quelques structures privées, mais la majorité n'était pas associée. Donc ça, il y a d'autres raisons aussi à ça. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir débattre sur le plateau.
D'accord.
Et quand même, c'est surtout le renforcement de la compétence des agents. En même temps, le renforcement dans la dotation en équipement et matériel.
Souleymane Doulo veut réagir.
Oui, par rapport à ce que le docteur Traoré vient de dire, je ne suis pas dans la même logique que lui. Parce que pour moi, la santé, ce n'est pas que public au Mali. La santé, c'est le public, c'est la société civile. Et aussi, c'est le PTF. Donc, si on prend en compte la formation des agents du public et qu'on laisse la formation des agents de la société civile, ça pose problème. Et je pense qu'il faut voir de ce côté. Je pense que Ebola, c'est un ennemi assez virulent qui doit nous amener à travailler en synergie. Et parce qu'on a vu que Ebola a mis
PTF de passage, partenaire technique et financier.
Oui, parce que Ebola a mis à nu les carences du système de santé. En son temps, tout comme le VIH avait fait, et actuellement Ebola est en train de encore nous mettre le dos au mur. Et donc dans ce cas, je pense qu'une action synergique est obligatoire. On ne peut pas aller seulement avec le public et essayer de dire qu'on va contrer Ebola. Ce n'est pas possible.
D'accord. Parlant de PTF, partenaire technique et financier, Dr Maïga, il y a l'OMS qui est là, la France qui est là, la Chine qui est là. Est-ce que cette aide suffira-t-elle?
Oui, l'aide, ça, on va toujours vouloir de l'aide. On va jamais refuser de l'aide. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je pense que c'est qu'on vit aujourd'hui, l'aide qui est donnée au Mali pourra nous aider, si elle est bien coordonnée, pour pouvoir y arriver. Je donne, quand il y a eu l'épidémie en Guinée, dans un mois, on a eu à peu près plus de 80 malades suspects d'Ebola de fin mars à fin avril. Plus de 80 malades et à peu près il y a une quarantaine qui étaient positifs, confirmés Ebola. Donc nous, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que on a un système qui fonctionne plus ou moins et voilà, qu'il faut améliorer. Donc l'aide aujourd'hui des partenaires financiers, c'est extrêmement important et ça nous aide. Concernant la formation, je suis complètement d'accord que la formation, elle doit être diverse et elle doit s'adresser à tout le monde. Mais vous savez, en réalité, ce qu'il faut dire et que les gens ne disent pas, en réalité, le privé, c'est bien. Quand tout va bien, c'est le privé, mais quand ça ne va pas, le privé se rabat sur le public. Et je pense que là où les gens se rabattent aussi, il faut vraiment qu'on mette l'accent là-bas. Ce n'est pas pour défendre le public, mais quand même, il faut reconnaître que dès que ça ne va pas dans une clinique privée, on ne veut pas que le malade meure dans la clinique, on le fait évacuer dans les hôpitaux.
Ouais. Mamadou Djimé de Kay, vous êtes avec nous?
Oui, madame.
Alors, quel est votre avis sur cet aspect? L'aide internationale.
Bon, l'aide internationale, vous savez, ce n'est pas seulement l'Ebola. L'aide internationale nous est tellement utile que souvent on oublie même qu'on existe nous-mêmes. Et pour ce cas, l'aide internationale est la bienvenue. Nous n'avons pas une technologie développée, donc obligatoirement nous devrons faire recours à l'aide internationale.
Vous êtes optimiste pour cette aide?
Oui.
J'ai dit, vous êtes optimiste pour cette aide?
Bon, l'optimisme, je l'ai. Je l'ai, mais je crois que c'est notre effort aussi. C'est vrai, l'aide internationale nous est beaucoup utile, mais les systèmes mis en place, là, il faut réellement qu'ils soient renforcés. Bon, ben, à Kay, vraiment, effectivement, c'est le lieu de remercier la santé dans toute sa composante, l'OMS, l'NRSP, le développement social. Mais voilà, peut-être le peu de moyens qui étaient là, mais ils ont pu faire quelque chose. Donc, ce système qui est à Kay, il faut le renforcer. Mais l'aide est toujours la bienvenue en ce moment.
Qu'est-ce qu'il faut renforcer à Kay? Qu'est-ce qu'il faut renforcer à Kay comme dispositif?
Le système qu'on a mis en place là pour essayer d'indiquer, pour essayer de stopper l'Ebola, mais il faut le renforcer. Il faut être vigilant.
D'accord.
Il faut être vigilant. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, à Kay, avec un cas, il y a beaucoup de suspects. Et qu'au-delà de 21 jours, la période d'incubation, et que tous ces gens qui étaient là, c'est parce qu'ils ont été bien suivis, ils sont sortis, mais il faut que la vigilance soit de mise.
D'accord.
La vigilance doit être de mise, vraiment.
Boubacar Traoré, en deux mots, de l'Ordre des médecins, est-ce que tous les besoins ont été évalués à ce jour?
Je dirais que oui, parce qu'il y a un plan de contingence, de préparation et de lutte face à l'épidémie d'Ebola qui a été élaboré au niveau national et qui a été validé par le ministère de la Santé. Donc, dans ce plan, il y a l'évaluation des besoins face à une éventuelle épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola.
D'accord. Ouais. Merci. Ainsi prend fin donc ce numéro du Grand Dialogue consacré à Ebola et les mesures prises au Mali. Boubacar Traoré, secrétaire général adjoint de l'Ordre des médecins du Mali, Dr Al-Mustapha Maïga, virologue, Souleymane Dolo, directeur groupe Pivot Santé, et Mahamadou Djimé, conseiller municipal à la mairie de Kay, ont répondu à nos questions. Nous espérons que vous avez eu un intérêt pour ce numéro qui vous a été présenté par Sira Bati. Moribo Marico l'a réalisé et la mise en onde était assurée par Nouhoum Diré. Merci de votre attention. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.